L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Êtes-vous prêts ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Alors ce matin, on continue dans le thème de la réforme. La semaine passée, on a parlé de la réforme aujourd'hui, et on a parlé de certaines choses, entre autres, au niveau de la bénédiction et de la malédiction. On a parlé de ces deux choses-là. On a parlé qu'on a des racines dans l'Église évangélique aujourd'hui, des racines qui sont encore là depuis de nombreuses années, qui n'ont pas été coupées, et puis on a continué à croire et d'agir comme on agissait autrefois dans l'Église de notre passé. Et qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée? Que c'est important d'être renouvelé par la parole, de tourner la page sur le passé et d'arriver à une place de discernement. Amen, vous étiez là? Amen. Donc, on veut discerner la volonté de Dieu et faire la part des choses. On a parlé également que le chrétien peut passer par des périodes de souffrance. Et quand on parle de la souffrance, on parle ici de souffrir pour le nom de Christ. Mais on a parlé également que Dieu ne nous appelle pas à marcher dans la souffrance de la malédiction parce que Jésus a déjà porté la malédiction pour nous. Amen. Donc, vous vous rappelez de tout ça. Alors, aujourd'hui, on va continuer dans le même thème, mais on va parler de la dernière réforme. Et je peux vous dire que en préparant ce message, il y a plusieurs personnes qui ont eu des rêves cette semaine, ou même dans les semaines récentes, j'ai eu la soumission de 5 rêves cette semaine, des gens de l'Assemblée. Donc, je prendrai pas le temps de vous expliquer chaque rêve, mais je peux faire un résumé, à quelque part, en vous disant qu'il y a 2 rêves, entre autres. Il y en a 3 qui étaient sur l'épouse de Christ, mais il y en a 2 dont je vais parler aujourd'hui, que je vais mentionner. Et je crois que le Seigneur nous appelle à, non seulement à avoir une réforme au niveau de nos croyances, mais une réforme dans notre vie, dans notre vie chrétienne. Parce que qu'est-ce qu'on croit, c'est sûr, ça va changer nos vies. Et Dieu nous appelle en tant qu'Église à vivre une réforme spirituelle. Amen. Donc, il va y avoir un grand changement dans les jours qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, je crois, dans l'Église évangélique. Et je dis gloire à Dieu parce que, vous savez, ce matin, même si on prêche ici au Québec, mais on sait qu'il y a des frères et des sœurs dans d'autres nations présentement qui vont prendre ce message et qui vont recevoir ce message-là dans leur cœur et il va y avoir un impact au-delà de cette Église. Moi, je peux dire amen et gloire à Dieu pour ça. Et cette semaine, j'ai encore reçu des courriels et des messages des gens qui ont vécu des changements dans leur vie, qui vivent des transformations suite au message même de la semaine passée. Parce que le Seigneur veut faire du ménage, il veut que son Église soit délivrée, il veut voir cette Église glorieuse se lever et prendre sa place dans le corps et dans le monde dans lequel nous vivons. Alors ce matin, on va simplement pencher nos têtes, on va remettre ce temps maintenant au Seigneur et on va s'attendre de vivre une réforme même parmi nous. Amen. Père éternel, on vient devant toi ce matin. On veut te remercier, Seigneur Jésus, pour ta sainte parole. On veut te remercier également, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous parle encore aujourd'hui. On te remercie, Seigneur, pour les songes que tu nous donnes également, parce que tu as un message à communiquer à ton Église aujourd'hui, dans cette place et dans la francophonie. On veut te louer ce matin, t'adorer, te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu nous éclaires dans toute ta vérité. Et Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes l'autorité contre tout esprit de séduction qui voudrait voler nos pensées, nous distraire lors de ce message. Seigneur, nous choisissons de rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Maintenant, au nom de Jésus, amen. Amen. Alors ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Actes chapitre 3 et le verset 19 à 21. Actes chapitre 3. Commençant au verset 19 à 21. Je crois qu'il y a une nouvelle génération parmi nous. Une génération, il y a des jeunes, certainement les jeunes ont soif pour plus de Dieu, et je crois aussi une génération de personnes, peut-être vous êtes moins jeunes dans votre corps, mais vous êtes jeunes de cœur, et vous avez soif vous aussi de vivre plus dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ceux dans la quarantaine sont contents, là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes cette génération, la génération de Jacob qui va monter dans la montagne. Actes chapitre 3, verset 19 à 21, il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Maintenant, je vais le relire, parce que des fois, on peut l'entendre une fois et ça ne rentre pas. Amen? Est-ce que ça se peut, ça? Donc, on va le relire ensemble. Actes, chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc. » Quand on parle d'une repentance, on parle d'un changement. Si on est en direction vers Sherbrooke, OK, et on veut s'en aller à Montréal, si on voit constamment les pancartes, les affiches qui disent « Sherbrooke, Sherbrooke, Sherbrooke », et on veut se rendre à Montréal, on est mieux de se repentir, on est mieux de changer de direction. Amen? Et en changeant de direction, on va arriver à Montréal. Hein, ça fait du sens. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Vous allez dire, mais pourquoi, pasteur, tu nous parles ici de se convertir? Nous sommes déjà des chrétiens, on a déjà été convertis. Bien, je peux vous dire, il nous reste encore une portion à convertir chez nous. Pourquoi? Quand on parle de conversion, c'est de changer encore une fois notre façon de penser, notre façon d'agir. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent. Vous savez, le Seigneur désire rafraîchir son Église, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et par la suite, ça dit, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Je crois, avant le retour du Seigneur Jésus, nous allons vivre un temps de rafraîchissement, enfants de Dieu. Amen. Nous allons vivre un grand temps de rafraîchissement. Et ce matin, quand je parle de réforme, je parle qu'on va voir un changement au niveau de l'Église. Aujourd'hui, au Québec, mais partout à travers le monde, il va y avoir un grand changement. Et la réforme que nous allons voir, la dernière réforme que nous allons voir dans le monde, ce sera cette Église qui va se révéler comme étant l'épouse de Christ. Et on n'a jamais vu encore l'épouse de Christ dans la splendeur de la gloire. On l'a pas vu encore. On a entendu parler de certaines choses. On a vu certaines dimensions de la gloire de Dieu. Mais il s'en vient un jour où l'Église va être totalement réformée. Et cette Église va être glorieuse. La gloire de Dieu va être resplendissante sur elle. Et nous sommes dans ce moment en histoire où nous allons vivre cette réforme. Dans les années 1500, il y a eu une réforme au niveau de la doctrine. Mais nous allons voir maintenant une réforme, non seulement juste au niveau de la doctrine, mais une réforme même dans la marche, la conduite de l'Église. Et c'est cette Église, cette épouse qui va se révéler avant l'enlèvement de l'Église. Alors, ça prend un changement dans nos pensées, dans nos attentes et aussi dans notre comportement. Vous allez voir, c'est pas un comportement non plus qui va être facilité ou ça sera pas un travail de la chair, mais c'est un travail de l'esprit. C'est un travail où le Saint-Esprit nous change, nous transforme et se glorifie à travers nos vies. Je continue au verset 21. Que le ciel doit recevoir ou retenir en anglais jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Je prendrai pas plus de temps à parler de ces deux choses, mais maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vous partager juste brièvement deux rêves que deux sœurs ont eus. Un des rêves, c'était concernant une épouse chancelante. Une épouse qui avait beaucoup de difficultés à marcher, qui était très faible. Et moi, je crois que ce premier rêve concernant l'épouse nous parle ici de l'épouse de Christ. Qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a une épouse. Et quand on parle de l'épouse, on parle du corps de Christ ici. Mais cette épouse qui est faible, qui a de la misère à avancer, qui a besoin de l'aide des gens autour d'elle. Ça, c'est une épouse, mais non seulement qui était chancelante, mais elle était également dans l'adultère spirituel. Ça, c'est une des choses qu'on voyait que cette sœur a reçue dans son rêve. Et une autre sœur a vu maintenant une épouse qui était mal mariée. Et la sœur, quand elle a reçu ce rêve-là, elle dit, ben, ça peut pas être Christ, parce que Christ est merveilleux. Ça ne peut pas être le Seigneur Jésus. Mais comme elle m'expliquait son rêve, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que, en fait, le mari qui abusait de sa femme dans ce rêve-là, c'était simplement que la femme était mariée à un mauvais époux. C'est pas Christ. Donc, il y a une portion de l'Église aujourd'hui qui est mariée à un faux époux. Celui qui est abuseur. Et on sait que dans Galates 1:8, ça nous parle que si nous avons cru un autre évangile, que nous allons être anathème ou maudits. Si nous avons cru un autre évangile, on a des sérieux problèmes, enfants de Dieu. Donc, je voyais là, il y avait un troisième rêve, mais encore une fois, ça nous parlait toujours de cette épouse. Cette épouse qui a besoin de délivrance. Une épouse qui a besoin d'être forte en Christ et qui a besoin de marcher dans la sainteté. L'adultère spirituel, c'est de mettre des choses, de l'idolâtrie dans nos vies, cet amour pour d'autres choses au lieu de marcher avec Dieu. C'est de marcher dans le péché. Mais nous allons voir cette glorieuse épouse se révéler. Et je crois que si le Seigneur donne des rêves maintenant dans le corps de Christ, comme ça, la semaine passée, on vous a partagé un rêve ou des rêves que mon épouse a eu. Là, c'est un peu parlé par le leadership de l'Église. Mais également, le Seigneur vous parle à vous. Et des fois, c'est juste pour intercéder pour les choses que le Seigneur vous donne. Parce que le Seigneur veut se servir de son corps au complet. Amen. Donc, il y a des rêves que le Seigneur va vous donner et c'est à vous de prendre ces rêves-là et de prier dans la direction de Dieu pour voir une restauration de cette épouse-là. Amen. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une épouse et qui va certainement rencontrer l'époux Christ. Et la bonne nouvelle ce matin que j'ai à partager avec vous, c'est non seulement il y a une épouse qui a de la difficulté, qu'il y a une épouse dans l'adultère spirituel, mais il y a une épouse que le Seigneur Jésus va venir chercher. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer quelques temps à regarder les versets concernant le retour de Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord un matin? Amen. On va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 16 à 17. Cette semaine, comme je préparais ce message-là, je peux vous dire, j'aurais pu avoir 20 pages de notes et j'ai eu de la difficulté à savoir comment faire un résumé. Parce que vous savez, des fois, on peut prêcher et moi, je prends pas la liberté que nos frères africains vont prendre, prêcher 6 heures. Non, mais c'est vrai, il y a des personnes qui vont prêcher 6 heures et puis ça serait tellement facile de prêcher comme ça parce que j'aurais pas besoin de trier dans mes notes et dire, OK, c'est quoi qui est vraiment, vraiment, vraiment important ici? Parce que le Seigneur parle et donne tellement de choses concernant l'épouse de ce temps ici. Mais ce matin, qu'est-ce que je veux faire? C'est qu'on puisse avoir nos yeux sur ces textes-là concernant la bonne nouvelle que l'époux s'en vient chercher l'épouse. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Il est écrit, « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, dites enlevés, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, nous lisons dans ce texte-là que le Seigneur Jésus va venir chercher son Église, son épouse, et nous allons être enlevé avec lui. Il y a des gens qui ont de la difficulté des fois avec l'enlèvement parce qu'ils disent, bien, le mot enlèvement n'est pas dans la parole de Dieu. Cependant, on peut voir le mot enlevé. Donc, faut pas être plus catholique que le pape, comme on dit au Québec. Hein? Le mot enlevé est là. Nous serons tous ensemble enlevés. Mais c'est suffisant pour moi de croire que nous allons être enlevés à cause de ce texte-là. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, ici nous allons voir qui le Seigneur va venir chercher. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, il est écrit, « Quant à vous, Marie, » ici c'est l'apôtre Paul qui parle aux Maries, « que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. » Verset 27, « Il en a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté. » Sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Remarquez, ici on parle de l'Église, cette Église glorieuse que le Seigneur Jésus va avoir. Verset 27, si je relis cette fois-ci dans la Louis II, il est écrit, « Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Et quand on parle de cette Église glorieuse, on ne parle pas simplement de l'apparence physique ici, là. On ne parle pas juste de l'aspect visuel, mais on parle de la gloire, une dimension de la présence de Dieu. Que le Seigneur Jésus s'en vient chercher une Église glorieuse. Cette Église glorieuse, c'est une Église qui marche dans la gloire de Dieu aujourd'hui, qui marche dans la présence de Dieu. Ça, c'est nous, enfants de Dieu. Si vous dites, ben moi, je marche pas dans la présence de Dieu ou dans la gloire de Dieu, bien, ça peut changer aujourd'hui. On peut prendre la décision et dire, moi, je veux être cette épouse. Peut-être que vous êtes un homme et vous dites, ben moi, je suis pas une épouse, voyons. Mais si vous êtes en Christ, vous êtes l'épouse de Christ. Donc, nous comprenons ici, c'est un langage que le Seigneur emploie, mais pour nous faire comprendre comment il nous a aimés et comment il nous a choisis et comment il veut nous chérir. dans Tite, chapitre 2 et le verset 13. Ici, ça nous parle de l'attitude de l'épouse. Si vous êtes l'épouse véritable de Christ, vous avez hâte de voir le retour du Seigneur Jésus. Vous avez hâte de voir l'époux. C'est en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Donc, nous soupirons, nous avons ce désir ardent de revoir, de voir notre Seigneur Jésus. Si vous êtes l'épouse de Christ, imaginez une jeune fille qui est fiancée et son mari est parti, il travaille, est en train de préparer leur maison où ils vont habiter ensemble. Et cette fiancée, elle veut voir son mari et là, elle a hâte. Mais imaginez une épouse ou une fiancée qui dirait, oh, qu'il prenne son temps, ça me tente pas vraiment de le voir. On dirait, ben, il n'y a pas beaucoup d'amour d'installer dans cette relation-là. Mais nous sommes l'épouse de Christ et nous avons ce désir-là. Et en plus, la Bible nous dit, c'est notre bienheureuse espérance. Notre espoir est là. Mais le problème des fois dans l'Église, c'est qu'on a eu l'espoir de voir le Seigneur Jésus et on s'est dit, bien là, maintenant, on va rien faire. On va juste s'asseoir et on va attendre qu'il revienne. Ou on va aller se cacher dans une grotte à quelque part. Mais c'est pas ça que ça veut dire. On a toujours cet espoir que le Seigneur va revenir nous chercher, mais en même temps, on est actif pour lui et on produit de bons fruits. Dans 2 Timothée 4, verset 8, ici, ça nous dit en plus, si vous avez hâte de revoir le Seigneur Jésus, voici une des choses qui va se passer pour vous. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, la couronne de justice, est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Avez-vous hâte, enfant de Dieu, de revoir le Seigneur Jésus, celui qui vous a sauvé? Avez-vous hâte à ce jour où le Seigneur Jésus va venir chercher son épouse? Si vous avez hâte, le Seigneur va vous donner une couronne. Une couronne parce que vous avez eu hâte, vous avez eu ce désir de le revoir parce que vous étiez rempli d'amour pour l'époux, pour le Seigneur. Si vous avez hâte, vous allez recevoir une couronne. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vous allez lui remettre. C'est une façon où on va pouvoir le glorifier davantage et arriver au ciel, pas les mains vides, mais avec les mains remplies de couronnes. Parce qu'il y a toutes sortes de couronnes que le Seigneur nous donne selon notre fidélité. Mais une couronne qui est la plus facile, moi, selon moi, pas la couronne des martyrs, mais la couronne de simplement être un amoureux de Dieu et d'avoir tellement hâte qu'il revienne. Ça, c'est une couronne qu'on va recevoir si vous avez hâte. Amen. Et ça peut changer. Si vous dites, oui, mais moi, j'aimerais ça, tu sais, avoir ce désir-là, mais on dirait, en dedans de moi, c'est juste intellectuel, ou ma vie chrétienne, c'est comme, ça fait longtemps que je la vis, puis on dirait, c'est comme sur le neutre, ou je sais pas trop, j'ai pas ce désir-là, ou cette attente, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler, depuis que j'ai 10 ans, j'en entends parler, et il est pas revenu encore, et puis finalement, je sais pas trop. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont à cette place-là, qui sont dans cette position-là, où ils n'attendent pas vraiment le retour du Seigneur Jésus. Mais ça peut changer. J'ai une autre bonne nouvelle concernant le retour du Seigneur, c'est que le Seigneur va arriver au bon moment. C'est une bonne chose à vous dire. Le Seigneur va arriver au bon moment. Je vais vous donner un autre verset, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 9. Si vous posez la question, bien là, est-ce que le Seigneur va laisser son épouse vivre les atrocités qui s'en viennent dans le monde? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9, ça dit, « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut ou de la délivrance par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, nous serons protégés des choses qui s'en viennent dans le monde. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Vous savez, si j'étais fiancé avec mon épouse, mais là, je suis déjà marié, mais admettons, et puis admettons, était dans un pays où la guerre était pour éclater, bien, je viendrais la chercher avant la guerre. Il y en a des gens qui pensent que non, il va arriver à mi-chemin, là. Faut qu'elle vive un petit peu de la guerre et tremblement de terre et tout ça. Et puis là, finalement, mais je crois vraiment que le Seigneur va venir nous chercher parce que le temps de la tribulation qui s'en vient sur le monde, la grande tribulation, c'est un temps où la colère va être déversée sur la planète, où il va y avoir des choses terribles qui vont se passer. Alors moi, je crois que le Seigneur va venir nous sauver, il va venir chercher son épouse avant ce moment-là. Et c'est certain qu'on peut voir une certaine tribulation, parce qu'il y en a dans le monde. La tribulation, en ce moment, il y en a de la tribulation. Mais la grande tribulation, c'est rien, là. C'est rien. Qu'est-ce qu'on vit là? C'est rien comparativement à la grande tribulation qui s'en vient. Et pourquoi aujourd'hui je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ces moments-là où le Seigneur va revenir chercher son Église? Mais parce que, vous savez, si vous écoutez les nouvelles, si vous êtes moyennement juste connecté avec ce qui se passe dans le monde, peut-être vous vivez des émotions et vous posez des questions concernant le retour du Seigneur Jésus. Peut-être vous vivez de l'angoisse, peut-être des questionnements moment. Mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais passer à travers toutes ces choses-là? Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur Jésus s'en vient chercher son Église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on sait le Seigneur, il nous aime, c'est aussi qu'est-ce qu'il nous bénit, parce que le Seigneur, non seulement il vient nous chercher pour nous secourir, mais il vient nous chercher parce qu'il est motivé par l'amour pour son épouse. Maintenant, je vais vous inviter à tourner dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 9. Jusqu'à date, je vous donne juste un fondement là, concernant l'épouse, que le Seigneur s'en vient chercher son épouse. Mais maintenant, on va voir ensemble qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens de nos jours qui ne croient plus au retour de Jésus, qui ne croient plus à l'enlèvement. C'est épouvantable, peut-être vous êtes même choqués par ce que je viens de vous dire, mais c'est une réalité. Il y a même des pasteurs avec qui vous pouvez parler qui vont vous dire « Ah, le retour de Jésus, tu crois encore là-dedans, toi? » C'est vrai. Même récemment, j'en ai entendu parler. Tu crois encore là-dedans? On a besoin de vivre une réforme de foi dans nos églises. 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 9. Il est écrit « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. » Ou dans la Bible du Sommeur, ça dit « Tourneront votre foi en ridicule. » Est-ce que peut-être vous êtes déjà senti visé ou moqué par votre foi que le Seigneur était pour revenir? Bien, c'était écrit dans la parole de Dieu que ça l'arriverait, que dans les derniers temps, votre foi serait tournée en ridicule. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Allons au verset 9, ça dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et je vais vous dire ici, ce texte-là se réfère non seulement aux gens dans le monde, mais ça se réfère également aux gens dans nos églises, enfants de Dieu. La repentance, dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Tantôt, j'ai commencé le message en parlant de conversion. Et encore une fois, on parle de conversion. Que le Seigneur désire qu'on se convertisse dans notre foi et qu'on puisse vraiment croire la parole de Dieu, même concernant le retour de Jésus-Christ. C'est important qu'on puisse garder notre foi ancrée et ne pas changer avec la mode ou les choses qui sont dites maintenant à la télévision où les chrétiens ne croient même plus à l'enlèvement de Jésus, à l'enlèvement de l'Église. Peut-être ça vous surprend, peut-être vous dites, ben tout le monde croit là-dedans. Non, les gens commencent à changer. Savez-vous, ça va toujours de pire en pire. Les gens perdent la foi. Et qu'est-ce que je veux partager avec vous concernant ici le retour? Il y a une triste réalité, il y a une bonne nouvelle pour vous, pour nous qui croyons, le Seigneur s'en vient nous chercher, mais il y a une triste réalité que les gens ont commencé à délaisser la parole de Dieu, et en délaissant la parole de Dieu, ils ont quitté l'espoir, la bienheureuse espérance qu'on voit. Ça nous parle également dans Matthieu 24, verset 37 à 42, vous pourrez le lire chez vous, mais que dans les derniers temps, les gens seraient insouciants, ils seraient préoccupés avec toutes sortes de choses, comme à l'époque de Noé. Vous connaissez ce récit, je prendrai pas le temps de vous lire. Mais aussi, il y aurait beaucoup de faux chrétiens. On va lire ensemble dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. C'est important ce matin qu'on parle de ces choses-là, pour qu'on puisse discerner là où est notre foi. Sommes-nous comme les chrétiens intellectuels, ou sommes-nous l'épouse de Christ? Vous dites peut-être, ben je pensais que c'est la même chose. Ceux que le Seigneur Jésus va venir chercher, ce sont ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, qui sont en amour avec Jésus-Christ. C'est super important ce matin, ce que je vous dis. Il faut vraiment savoir, le Seigneur s'en vient chercher une épouse qui l'attend, une épouse en amour avec lui, une épouse passionnée pour l'époux. Mais ceux qui sont dans une religion, je m'excuse, ne montreront pas. Et je crois que c'est super important qu'on en parle. Et aussi pour les gens par Internet, à la radio, il y a des gens, vous êtes religieux et vous vivez une religion évangélique et c'est pas différent qu'une autre religion. Parce que vous n'avez pas de relation vivante avec Jésus-Christ. Et c'est important pour nous d'en parler. C'est important pour nous d'en parler parce que Dieu ne nous appelle pas à vivre une religion enfant de Dieu. Je l'ai dit souvent, mais faut vraiment arriver au point où les gens se réveillent et réalisent, est-ce que je suis vraiment l'épouse de Christ? Quand l'enlèvement va avoir lieu, quand la trompette va sonner, est-ce que je vais monter, moi, dans l'enlèvement? Ou est-ce que je vais rester ici et passer à travers la grande tribulation pour devenir un des martyrs des temps de la fin de la tribulation comme nous lisons dans l'Apocalypse? Ce matin, peut-être ça vous réjouit pas, mais moi, je dois vous prêcher ce que le Seigneur me donne à prêcher. Je dois vous dire, quand je préparais ce message-là, puis je l'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je trouve ça super compliqué de préparer ce message-là, c'est super, avec aussi les rêves que les gens ont reçus, et comment le Seigneur, même en me réveillant, le Seigneur me donne des versets, puis je suis comme, Seigneur, c'est encore difficile. Mais savez-vous, si je veux que le Seigneur m'accompagne, si je veux que le Seigneur puisse propulser ce message-là, moi, je dois prêcher les messages que lui, il veut que je prêche. Et je crois que l'heure est arrivée pour que les chrétiens religieux, qui ne sont pas renouvelés, mais des chrétiens qui vivent juste dans leur tête, qui ont besoin d'être touchés par la présence de Dieu et ouvrir leur cœur à recevoir de Dieu. Il y a des faux chrétiens. On va lire ensemble dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, ou dans les derniers temps, les temps seront difficiles. En parlant des gens, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Remarquez cela ce matin. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Il y a des gens en ce moment qui devraient être à l'église et qui ne le sont pas. Il y en a qui ont préféré faire d'autres choses autres que Dieu. Certes, ils seront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Je vais vous le relire. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Quand on va dans le grec, le mot force, c'est le dynamis. Et on parle ici de la présence de Dieu. Ils ne voudront rien savoir de la puissance de Dieu. Il y a des chrétiens comme ça, ils veulent croire la Bible et dire « Oui, Dieu agissait dans le passé, il faisait des signes, des prodiges, des miracles dans le passé, mais aujourd'hui, ne dérange pas ma religion intellectuelle. Moi, je veux juste du terre à terre, je veux rien savoir de la puissance de Dieu. » Et Dieu l'avait dit que dans les derniers temps, il y aurait un refroidissement où les gens ne voudraient rien savoir de la puissance de Dieu, du dynamisme de Dieu. Mais nous, on choisit de croire encore aujourd'hui, pas juste dans la pratique extérieure de la religion, mais d'avoir cette relation vivante avec Christ. Amen. Savez-vous pourquoi il y a beaucoup de personnes qui veulent s'opposer et qui ont peur du dynamisme? C'est qu'ils ont peur pour leur réputation. Ou encore, il y a beaucoup, beaucoup de craintes concernant le surnaturel. Beaucoup de craintes dans l'Église évangélique du surnaturel aujourd'hui. On a peur des démons. Mais on n'a pas réalisé que nous sommes plus puissants et plus grands que celui qui est en nous, que celui qui est dans le monde. Dieu ne nous appelle pas à avoir peur des démons. Moi, je n'ai pas peur des démons. Il y en a qui vont dire, oh, dis pas ça, pasteur, d'un coup, c'est, j'ai pas peur des démons. La Bible dit, ils ne peuvent pas me nuire. Si je sais qui je suis en Christ, j'ai toute l'autorité. C'est pour ça que mon frère et moi, on est allés dans une maison hantée l'autre jour, et puis j'avais pas peur, moi. Ben, j'ai dit, la petite madame qui était là, elle dit, sentez-vous des choses? J'ai senti des choses vers la fin, mais je peux vous dire, moi, je suis rentré là dans la paix, parce que les démons sont sous mes pieds. C'est vrai? Je peux rentrer dans une maison hantée, puis si on me donne l'autorité dans la place, moi, je peux chasser ces démons-là, puis j'ai la paix. Ils ne peuvent pas me nuire, parce que je suis recouvert du sang de l'agneau. Amen? Mais on a une église faible en ce moment. Une église qui a peur de tout. La Bible nous dit, ils seront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Ça ne suffit pas, enfants de Dieu, d'être attachés aux choses extérieures. Il va y avoir une apostasie dans les temps de la fin. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. Dans la Bible du Sommeur, ça dit, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. Remarquez, qu'est-ce qu'on prêche constamment, on revient constamment là-dessus, on veut prêcher un message de foi. Dans les temps de la fin, les gens vont se détourner de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Quand on ne croit pas la parole de Dieu, on n'a pas la foi dans la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, c'est parce qu'on a été séduit par des mauvais esprits, enfants de Dieu. Des enseignements inspirés par des démons, ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges, dont la conscience est comme marquée au fer rouge. C'est de prendre la parole de Dieu, les promesses de Dieu, et de dire, non, ce n'est pas pour vous, et voici, je vais vous sortir mon titre de docteur en théologie pour vous dire pourquoi la Bible ne fonctionnera pas pour vous. Et là, on est impressionné. On est impressionné par le docteur devant le nom, et on se fait voler notre foi. Mais c'était prophétisé que ça arriverait dans les temps de la fin. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4, je donne un fondement ici ce matin. Je donne un fondement, mais c'est important. Ça dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Une foule de docteurs, plein de spécialistes, des gens qui connaissent beaucoup de choses dans leur tête. Mais en réalité, ils ne sont pas renouvelés par la parole de Dieu et ils ne croient pas la parole de Dieu. Jusqu'à date, si vous trouvez ça trop lourd ce matin, j'ai des bonnes nouvelles, ça va changer bientôt. Amen. Mais je vous donne juste le fondement que nous vivons dans une société présentement et dans un climat spirituel comme ça. Si vous ne saviez pas, je viens de vous l'annoncer. Le dernier verset que je vous donne concernant cette chose-là, Ésaïe 56, versets 10 à 11, ça nous parle ici en Israël des faux prophètes. Ça nous parle des prophètes, ses gardiens. Ils sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Un chien qui n'est jamais capable de japper. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces ou féroces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt. Jusqu'au dernier. Si je prêchais pour mon intérêt aujourd'hui, je vous prêcherais juste comment être béni. Puis je le prêche parce que Dieu veut qu'on soit béni. Mais je dois prêcher tout le conseil de Dieu pour que vous puissiez vraiment marcher dans la foi et savoir discerner là où vous en êtes. Amen. Incapable d'aboyer. Ça veut dire Dieu parle et Dieu veut avertir son peuple, mais parce qu'on ne veut pas déplaire les gens, on ne dira rien. Incapable d'aboyer. Dieu parle de ses bergers comme étant des chiens. Praise the Lord! OK. Je continue. OK. Maintenant, ce que vous devez comprendre, la révélation choquante, okay, concernant la réforme, ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui à son Église, c'est que tous les croyants ne sont pas l'épouse de Christ. C'est ce qu'on doit réformer. Tous les croyants dans nos églises ne sont pas l'épouse de Christ. Tous les croyants, mais là vous dites, ouais, mais ils croient en Jésus. OK? Ils croient en Jésus. Jacques 2, 19 à 20, ça dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons aussi croient en Dieu, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. L'épouse de Christ, on va voir ensemble, c'est qui? Vous allez voir juste à partir de la parole de Dieu, qui est l'épouse de Christ? Qui est l'épouse de Christ? Voici la description de l'épouse de Christ. Apocalypse 21, verset 9. Voyez, vous allez voir, c'est super scientifique. L'épouse de Christ, c'est la femme de l'agneau. Qui est l'agneau? Jésus qui est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. L'épouse de Christ, c'est celle qui a été purifiée, qui s'est repentie, qui s'est détournée de ses péchés. Il y en a qui disent, oui, mais vous savez, j'ai fait une prière. J'ai fait une prière un jour et j'ai la foi de monter au ciel. Remarquez bien, on n'est pas sauvé par les œuvres. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis en train de prêcher un salut par les œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, Éphésiens 2, 8, 9 et 10. Donc, le message du salut, c'est par la grâce, une faveur non méritée. Mais quand on est vraiment sauvé, il y a un changement qui se passe dans nos vies. Remarquez bien, quelqu'un qui fait une prière et il y a zéro changement dans sa vie, je m'excuse, cette personne-là n'a pas reçu le miracle de la nouvelle naissance. On peut prier une prière, « Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. » puis après on fait d'autres choses. On continue, aucun changement. On ne s'est pas repenti, on ne s'est pas converti dans les choses, aux choses de Dieu. Et ça, c'est pas une personne régénérée. C'est la personne va peut-être à l'église. Peut-être ça fait 25 ans qu'elle va à l'église, puis elle chante des petits cantiques, puis elle fait sa petite vie religieuse. Mais est-ce que cette personne-là a été régénérée? Est-ce qu'elle a été sauvée? Est-ce que le Seigneur Jésus est vraiment devenu le Seigneur de sa vie, le maître de sa vie? Si la personne a dit « Oui, Seigneur, je te reçois dans ma vie, dans mon cœur », et là, Jésus est devenu le Seigneur de sa vie, tout d'un coup, oh, le Saint-Esprit vient habiter la personne. Et là, la personne commence à avoir des désirs de suivre le Seigneur. Il y a un changement radical qui se passe dans sa vie. Mais on a eu un évangile trop facile. Là où on a dit « Fais juste une prière, puis c'est tout ». Non, 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 c'est pas tout. Oui, c'est par la prière, c'est en confessant de la bouche. Oui, certainement qu'on parvient au salut, c'est en confessant de la bouche, mais il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Il y a un changement, il y a un miracle qui se passe. Il y a un miracle, la nouvelle naissance, c'est le plus grand miracle. Donc, il va y avoir un changement radical dans la vie de la personne. Une personne qui accepte le Seigneur, soi-disant, mais il y a zéro changement, zéro amour pour Dieu, mais juste l'amour pour les choses du monde. Je m'excuse, cette personne-là ne montera pas au ciel, même si elle a fait une prière. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que je veux m'assurer que vous êtes vraiment des amoureux de Dieu. Ça change pas le message que c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par une faveur non méritée. On ne mérite pas le ciel, mais il faut l'avoir dans le cœur. Faut dire, Seigneur, je te donne ma vie, prends-la vraiment. Amen. L'épouse amoureuse de l'époux. Voici qui le Seigneur s'en vient chercher. Jean 14, verset 15. Ça dit, si vous m'aimez, Jésus parlait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Quelqu'un qui aime Dieu va vouloir marcher avec Dieu. C'est simple, hein? 1 Jean, chapitre 2, verset 15, ça dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Quelqu'un qui va, je sais pas, il va au cinéma, il écoute juste des films tout croche, il va prendre son argent, il va aller voir, je sais pas, des humoristes qui vont sacrer, qui vont dénigrer le Seigneur Jésus, qui vont emmener toutes sortes de saletés. Et ces personnes-là, ils marchent là-dedans, puis aucun problème. Ils sentent pas la conviction du Saint-Esprit. Ils sont comme, ah, ils rient avec tout le monde, puis tout est beau, tout est parfait. Est-ce que cette personne-là a été vraiment régénérée? Si on ne se sent pas inconfortable dans un milieu comme ça, on a un problème. On n'est probablement pas sauvé. On a probablement besoin de dire, Seigneur, j'ai prié une prière, mais finalement, elle venait pas du cœur. Viens me sauver, viens me laver. Qu'est-ce que je vous dis? C'est juste la parole de Dieu ce matin, en passant. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voici qui le Seigneur Jésus s'en vient chercher. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Une épouse sainte. En passant dans un des rêves, dans deux des rêves, il y avait le chiffre 5. Le chiffre 5 nous parle de la grâce de Dieu. Mais dans un des rêves, il y avait 5 lits. Et c'était 5 lits souillés, sales. Qu'est-ce que ça me disait dans ce rêve-là? C'est qu'il y a un message de la grâce, mais c'est sali. Parce que c'est une fausse grâce. On donne cette fausse espoir aux gens. Qu'on fait juste une prière comme ça, et les gens se trouvent dans une fausse sécurité. Pensant, j'ai juste dit des mots et je suis correct. C'est pas ça. Si vous avez dit des mots et ça venait du cœur, il y a eu un changement en vous. Il y a eu un changement. L'Apocalypse chapitre 3, verset 5, c'est dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. 1 Thessaloniciens 4, 7, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ça veut dire être mis à part pour Dieu. Ça veut dire on va pas se saouler les samedis soirs et venir à l'église le dimanche matin. Ça veut dire qu'on va pas prendre la drogue. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'épouse de Christ. J'espère que ça vous dérange pas trop ce matin. Non. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, d'être mis à part pour Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On n'entend plus parler de ces choses-là dans nos églises aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous entendez souvent ça? Mais la Bible dit, recherchez la paix avec tous et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voulez cette épouse qui va voir le Seigneur quand le Seigneur va venir chercher son épouse. Mais rechercher la sanctification, rechercher d'être mis à part pour Dieu. On a besoin d'être cette épouse qui se prépare dans la prière, dans l'intercession. Et je peux vous dire, moi, j'ai été super béni. Un matin, je suis arrivé en retard et je suis arrivé dans la salle de prière. J'ai ouvert la porte et c'était comme une explosion d'intercession. J'étais comme, wow, gloire à Dieu. Il y a une épouse qui se prépare. Il y a des gens passionnés qui sont en amour avec Dieu, qui prient, qui cherchent sa face, qui veulent plus de Dieu, qui attendent l'époux. Ils se préparent. Gloire à Dieu, ça me réjouit ça. Ça me réjouit qu'on a un peuple qui aime Dieu comme ça. Matthieu 7, verset 21, ça dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, dites celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ah, mais là, pasteur, t'es sous la loi, t'es un légaliste. Je vous lis la parole de Dieu ce matin. J'aime mieux vous le dire aujourd'hui que peut-être dans quelques temps, là, l'enlèvement a lieu, et puis vous dites, « Mais comment ça, je suis pas monté? J'avais fait une prière, moi, il y a 20 ans. » Mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père, de Dieu. Amen. Amen. Il y en a qui vont se réveiller plus tard, Apocalypse 7, verset 14, en parlant de ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Dans l'Apocalypse 6, verset 11, ça parle, c'est ceux qui ont été mis à mort. Ça veut dire qu'il y a des gens parmi nous qui marchent dans une foi intellectuelle, ils vivent une religion, ils ne marchent pas avec Dieu vraiment, ils marchent dans le monde, mais ils vont peut-être à l'église le dimanche matin, ils font leur petite routine, puis ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ces gens-là, ça se peut qu'ils vont se réveiller, et là, l'enlèvement va avoir lieu. Même des pasteurs, je vais vous dire, il y a des pasteurs qui prêchent, qui ne sont même pas sauvés, savez-vous ça? Oui! J'ai écouté un témoignage, il y avait un pasteur, je dirais pas la dénomination, mais il a dit, ça fait 2 ans que je suis sauvé. J'ai compris c'est quoi le salut, que le Seigneur Jésus est venu m'habiter. J'ai compris que j'ai été pardonné de mes péchés, que ce n'est pas par les œuvres. J'essayais d'accomplir la religion, mais le Seigneur m'a sauvé, m'a délivré, m'a restauré. Il a été sauvé, ça fait 2 ans, mais pourtant, je crois que ça faisait 30 ans qu'il prêchait. Hey, imaginez prêcher 30 ans, puis ne pas être sauvé. Mais ça se peut, et c'est vrai, ça existe. Il y a des saints de la tribulation. C'est sûr que vous avez une chance. Admettons, si vous dites, ben moi, je vais rester intellectuel comme ça, et là, vous dites, ben là, l'enlèvement a lieu. Ah, ben là, je peux quand même être sauvé après, si je ne suis pas mort avant, là, admettons. Ben oui, mais vous allez juste mourir pour votre foi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, vous pouvez dire, Seigneur, je veux devenir un amoureux de toi. Amen. C'est disponible. Et j'ai dit tout ça aujourd'hui, je sais que ça a pris beaucoup de temps, et c'est peut-être dérangeant, mais je crois qu'on doit balayer de la poussière, on doit enlever des choses qui nous empêchent de voir vraiment, on doit être renouvelé aujourd'hui, savoir que le Seigneur Jésus, l'époux, s'en vient chercher une épouse glorieuse. Une épouse glorieuse qui est en amour avec lui, qui n'a pas peur de l'opinion de l'homme, mais qui est tellement en amour avec l'époux que cette épouse est prête à faire n'importe quoi pour plaire à son époux. Et c'est là où nous devons en être aujourd'hui, et c'est ça que le Seigneur veut faire. Et voici maintenant ce que je crois que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de nous faire redécouvrir notre ADN spirituel. Il est en train de nous faire redécouvrir qui nous sommes vraiment. Nous sommes appelés à être cette épouse glorieuse. Et quand on parle de la gloire, on parle de cette puissance, de sa présence de Dieu. Nous sommes appelés à être cette épouse dans la présence de Dieu, où nous baignons dans cette présence. Et je vais vous inviter maintenant à tourner dans Actes, chapitre 1, verset 8. Moi, je crois que qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des Actes? Il y avait cette église remplie de puissance, remplie de cette dynamisme de Dieu, cette dynamite de puissance. Mais je crois que qu'est-ce qu'on a vécu, c'est bien, c'est merveilleux, mais nous allons vivre beaucoup plus. Puis vous dites peut-être, ouais, mais c'est impossible. Oui, c'est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est là où nous devons en être aujourd'hui, dans cette réforme de l'Église, c'est de s'attendre maintenant que non seulement ce que nous pouvons discerner, de ne pas marcher juste dans une religion, mais d'arriver à cette place et dire, maintenant, nous sommes prêts à être revêtus de la puissance du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Moi, je ne crois pas qu'on a vu l'épouse glorifiée encore. Je crois pas, on peut même pas regarder dans le passé et dire, oh, ben regarde, dans les années 50, il y avait tel réveil. Oui, Dieu s'est glorifié. Oui, Dieu a fait des choses dans le passé, mais nous n'avons pas encore vu la splendeur de l'épouse que nous allons voir dans les jours qui vont suivre. Et moi, qu'est-ce que je veux, là? Je veux faire partie de cette épouse-là. Cette épouse-là qui n'a pas peur des hommes, qui n'a pas peur du surnaturel. Que cet amour pour Dieu qui veut vivre le maximum avec lui. Actes, chapitre 1, verset 8. Ici, c'est avant que le Saint-Esprit tombe sur l'Église primitive. Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le dynamisme, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est là où nous en sommes aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des gens qui disent, ben moi je veux plaire à Dieu. Bon, peut-être j'ai été un chrétien intellectuel, mais je suis vraiment sauvé. Mais j'ai juste été pris dans un piège intellectuel, puis je sais pas comment m'en sortir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, enfants de Dieu. Savez-vous, quand vous allez entrer dans cette dimension de la gloire de Dieu, vos efforts vont devenir faciles. Parce que là, on a essayé de bûcher en essayant. Mais quand nous entrons dans la gloire, dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui était difficile devient tout d'un coup facile. Peut-être vous vous luttez contre toutes sortes de problèmes. Mais quand vous réalisez que vous êtes déjà victorieux en sa présence, oh, ça devient facile. Gloire à Dieu. Mais c'est ça que Dieu est en train de faire. Il est en train de préparer son épouse du temps de la fin. Cette épouse glorieuse, cette épouse qui est remplie de puissance. Et ça, c'est disponible pour nous, enfants de Dieu. Dans Actes chapitre 3, verset 33, ça dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, beaucoup de dynamisme, le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Ça nous parle d'une grande puissance de l'Esprit reposait sur l'Église primitive. Et cette même grande grâce est pour nous, enfants de Dieu. Mais on doit être renouvelé au niveau de la grâce. On a pensé que la grâce, c'est en Dieu ton mal, puis Dieu va donner la grâce. On a pensé que ça voulait dire « en Dieu ton mal ». Non, la grâce, la présence de Dieu sur nous. Quand on a la présence de Dieu, on peut surmonter n'importe quoi. C'est comme l'apôtre Paul qui a eu les chairs dans la chair. Et tout le monde pensait que c'était de la maladie. Mais en fait, la Bible dit clairement que c'était un ange de Satan. Mais Dieu a dit, pendant trois fois, il a demandé « Seigneur, délivre-moi ». Et Dieu a dit « ma grâce te suffit ». Il n'a pas dit « en Dieu ton mal, Paul, ma grâce te suffit, je te donne la puissance pour surmonter toute épreuve par ma présence qui est sur toi ». Voyez-vous, on a besoin de cette réforme où on croit que, oui, cette grâce, cette puissance, le dynamisme de Dieu est pour nous. C'est pour nous. Et il faut pas juste remettre ça à demain qu'on va vivre un jour. Mais même mes amis par l'Internet, c'est pour votre Église également. On a besoin de voir une réforme dans l'Église aujourd'hui. On a besoin de voir des gens qui disent, c'est pas assez de croire que ça s'est passé il y a 2000 ans dans l'Église primitive, mais nous aussi, on veut vivre cette même chose, mais encore plus, parce qu'on est appelé à vivre des plus grandes choses, vivre dans la gloire de Dieu, vivre dans les signes, les prodiges, les miracles. Amen. 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 Ce matin, je peux vous dire que c'est permis. Là, je vais déranger peut-être des esprits religieux. Mais vous savez, il y a deux esprits dans le monde. Il y a l'esprit politique et l'esprit religieux. Et des fois, l'esprit politique veut taire l'Église, veut faire taire l'Église. Et des fois, c'est l'esprit religieux qui veut faire taire l'Église. Il y a toutes sortes de choses. On est dans une guerre spirituelle, comme vous savez. Une guerre spirituelle qui veut empêcher la révélation de l'épouse véritable. Mais moi, je peux vous dire qu'on a Saint-Esprit et cette épouse glorieuse sera révélée parmi nous. Amen. C'est nous l'épouse glorieuse et on le décide. Seigneur, on aime ta parole, on t'aime, et Seigneur Dieu, il n'y a rien qui va nous empêcher. Amen. Maintenant, je vais vous donner des versets concernant, si on va vivre la gloire de Dieu, est-ce qu'il va se passer des choses, peut-être, des choses différentes parmi nous? Est-ce qu'on devrait peut-être changer notre attitude? Si on veut être comme l'Église primitive et plus encore, peut-être on va devoir vivre des changements au niveau de notre marche chrétienne. Jusqu'à date, on s'est contenté, on était pardonné nos péchés, on s'en va au ciel un jour, on vit la vie sur la terre, on a plein de misère, on discerne rien, et finalement, quand on va mourir, au moins on va se rendre au ciel. Ça a été comme ça au Québec. Mais là, comme on a vu la semaine passée, non, on discerne. On est rendu à cette place où on discerne qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient de Satan. Je peux me réjouir. J'étais de l'autre côté, dans l'intercession. J'entendais le monde prier. Mon cœur se réjouissait. J'ai dit, hey, il y a du changement qui se passe. Il y a des gens qui ont reçu des choses. Il y a des gens qui ont reçu une révélation qui ne sont plus le tapis du diable, mais qui sont en train de se lever dans leur foi et qui commencent à croire les promesses de Dieu et disent, c'est nous les victorieux. Ah, ça me réjouit, puis ça me réjouit parce que c'est pas juste nous ici, mais on reçoit des courriels des gens qui commencent à voir, hey, finalement, on est libres, nous autres aussi, même, on est à Oujibougoumou, on est à l'autre bout du monde, ça dérange pas, mais nous aussi, on fait partie de cette gang-là de victorieux, nous autres aussi, on prend l'héritage qui nous appartient, on arrête de croire le mensonge de l'ennemi par ces faux docteurs, ces pasteurs ou les bergers qui ne peuvent pas aboyer ou qui ne prêchent pas la vérité, mais on commence à croire la parole de Dieu, puis c'est pas gloire à nous, c'est juste gloire à sa parole, puis juste dire, oui, Seigneur, on croit. Oui, Seigneur, on croit. On va pas faire semblant que c'est pas là, mais on va croire ta parole. Maintenant, recherchons ce revêtement de la gloire. Si Dieu, il dit, il va glorifier son Église, recherchons ce revêtement. Vous savez, dans l'Église, on dit tout le temps, ben, faut regarder à Jésus. Gardons nos yeux sur Jésus. Regarde pas rien d'autre. Juste tes yeux sur Jésus, puis tu vas être correct. C'est vrai, gardez vos yeux sur Jésus. Mais quand vous regardez vers la splendeur de Jésus, rappelez-vous que ce Jésus-là est vivant. Rappelez-vous que c'est pas une statue qu'on est en train d'adorer. On est en train de louer le Seigneur Jésus qui est vivant et attendez-vous de vivre une expérience avec le Jésus vivant. Là, qu'est-ce qui se passe? On regarde ce Jésus, mais finalement, dans notre tête, on regarde une toile de Jésus, peut-être crucifié. Dans notre tête, regarde Jésus. On regarde un Jésus mort. Non, ce Jésus-là est vivant. Et savez-vous, Dieu, il s'attend que cette épouse va vivre des expériences avec son époux. Je vais faire semblant que ce livre-là, que c'est un livre de recettes. Je vais faire semblant. OK? Et je vais faire semblant que je cuisine. C'est vraiment, faut pousser l'imagination ici. Admettons, je viens de recevoir ça à Noël, un beau livre de recettes. Wow! Hey, c'est un beau livre, hein, ce livre de recettes-là. Très beau. Et puis là, je commence à lire ça. Ah, ben c'est comme ça qu'on fait des crêpes. On met de la farine, des œufs. Vous savez, ça, je sais comment faire ça. On mélange tout ça, on met du lait, on brasse tout ça. Hey, ça serait donc le fun, hein, vivre ça. J'aimerais ça goûter ça, mais ah, c'est là, c'est sur une page. Ah, ben. Et ah, comment faire un gâteau? C'est intéressant. Je viens de voir comment on peut faire un gâteau. Oui, on mélange des ingrédients, je ne sais pas lesquels, mais on mélange des ingrédients. Et là, un jour, ben peut-être rendu au ciel, je vais manger du gâteau. Peut-être un jour. Alors, je suis en train de faire ça, mais savez-vous ce que Dieu nous appelle à faire? Pas juste lire le livre de recettes. Il dit maintenant, appliquez, faites-le. Je prends le livre de recettes, puis là, je dis, non seulement est-ce que je vais lire que c'est possible de manger du gâteau, de faire un gâteau, là, ce que je vais faire, je vais mettre les ingrédients ensemble, je vais brasser tout ça, et en plus, je vais aller mettre le gâteau dans le fourneau. Je vais aller à l'autre étape. Et par la suite, je vais être dans ma maison et je vais me permettre de respirer les odeurs. Ça sent le bon gâteau au chocolat. Je vais me permettre. Ah, ben là, t'as pas le droit de sentir ça. Faut pas que tu sois guidé par tes émotions. Mais moi, je ressens le gâteau. Je sens le gâteau que ça goûte bon, on dirait. Ah, ben, t'es un petit peu immature. Mais semble, là, tu devrais te satisfaire de manger juste du pain. Écoute. En autant que t'en as assez pour tes besoins personnels. Mange du pain. En même temps que tu meurs pas de faim, c'est ça qui compte. Et là, on sort le gâteau et ça sent bon. Et là, je vais même me permettre d'y goûter et d'en manger. Ça, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant dans cette réforme. Pas juste dire, c'est là, j'ai un livre de recettes, mais maintenant, je vais savourer les mets succulents que le Seigneur me donne. Amen, c'est ça que Dieu veut pour nous. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 6 à 7, ça dit, il nous a ressuscités ensemble. Et je l'ai lu dans les autres semaines, et savez-vous, on est sur un thème, enfant de Dieu, gloire à Dieu, je vais le relire encore. Éphésiens chapitre 2, verset 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Où êtes-vous assis spirituellement? Dans les lieux célestes en Christ. Si vous fermez vos yeux, et là vous dites, OK, je suis assis dans les lieux célestes. Hey, c'est beau là-bas. Savez-vous, c'est pour vous ça? Vous êtes appelés à vivre de cette dimension-là de la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. De vous permettre, même quand vous priez, vous louez le Seigneur, et là, par la foi, vous laissez le Seigneur vous toucher, vous laissez le Seigneur vous montrer des choses de sa gloire. Et on dit, mais faut faire attention aux choses de l'esprit, ben c'est dangereux. Je vais vous dire une chose. Aller dans une église morte, c'est dangereux. Mettre le Saint-Esprit de côté, c'est dangereux. Parce que vous allez dessécher spirituellement. C'est dangereux. C'est aussi dangereux que de dire, Seigneur, moi je reçois ton amour, je reçois ta grâce, je reçois ta présence sur moi. C'est correct de ressentir la présence de Dieu. C'est correct de ressentir sa présence. C'est comme dire, mange du gâteau, mais essaie de pas goûter à rien. Essaie de pas là, savourer le gâteau. Fais juste avaler vite. C'est ce qu'on veut dans nos églises. Hey, on est pas émotifs, nous autres. Faut pas être émotif. Non, mais savez-vous, Dieu m'a créé avec des émotions. Il m'a pas créé un bloc de ciment. Donc, si quelqu'un me pique, ça va faire mal. Si peut-être quelqu'un me donne un massage, ça va faire du bien. À quelque part, Dieu m'a créé avec des émotions. Je ne suis pas guidé par mes émotions. Je suis guidé par la parole de Dieu, par son Saint-Esprit. Mais si je suis dans la présence de Dieu, c'est permis de savourer sa présence. Amen. Et de recevoir plus de lui. Amen. Colossiens 3, verset 1 à 4, ça dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez, dites-le encore, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » L'épouse s'affectionne aux choses d'en haut parce qu'elle sait que bientôt elle s'en va dans cette maison-là. Elle a cette soif, ce désir d'être dans la présence de Dieu et elle s'affectionne aux choses célestes. Ça, c'est l'épouse de Christ. Et non à celles qui sont sur la terre. On passe pas toute notre vie à ne vivre que pour s'acheter une maison. C'est correct d'avoir une maison, j'en ai une, c'est correct. Mais si notre cœur, le but de notre existence, c'est d'avoir une maison, ou c'est d'aller au cinéma, ou c'est d'aller voir des spectacles, notre affection n'est pas à bonne place. Amen. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui, dans sa gloire, dans la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous donner un autre texte. L'appel de l'épouse, son appel et l'appel de l'époux pour l'épouse, c'est le retour à cette vie dans la révélation de Dieu. Là, enfant de Dieu, je réalise ce matin, il y a beaucoup, beaucoup de choses peut-être pour vous à assimiler, puis vous dire, ben là, OK, oui, le Seigneur s'en vient chercher son épouse, OK, j'ai suivi jusqu'à date. Hein, vous savez, suivi jusqu'à date, là, le Seigneur s'en vient chercher son épouse, pas une gang de religieux qui l'aime pas. Finalement, c'est ça. Si vous l'aimez pas, vous êtes juste religieux. OK, c'est ça. Bon, mais en passant, c'est pas une question juste d'expression. C'est pas ça que je veux dire. Je parle de l'état du cœur. Quelqu'un régénéré. Seigneur, là, il s'en vient chercher ceux qui sont régénérés, ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, qui sont en amour avec lui et qui marchent dans la sainteté parce qu'ils ont été changés puis ils ont ce désir-là de marcher en sainteté. C'est simple, hein, que j'ai dit. Ça a pris 45 minutes de dire ça. J'aurais pu le dire dans 2 minutes, puis finalement. Mais c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 16. Là, ça va être tellement merveilleux parce que le Seigneur va commencer à faire des choses dans vos vies personnelles à cause de ces versets-là qu'on va voir ensemble. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 16. Si on peut saisir ça, ces vérités-là, votre vie chrétienne, OK, moi, je crois que vous êtes déjà sauvés, que vous êtes déjà régénérés. Mais là, je crois qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez ouvrir votre cœur à laisser le royaume de Dieu vous envahir. Vous allez ouvrir votre cœur pour vivre la plénitude de son esprit. C'est ça la réforme que le Seigneur veut accomplir dans son Église. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment point. C'est comme ça que ça a été dans nos églises évangéliques. Oh, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, les choses qui sont montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah! On arrête ça là. Mais il y a un autre verset, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont toutes choses, sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Ce matin, qu'est-ce que je vous dis là, peut-être, je sais pas, j'espère que vous n'êtes pas au McDonald's. Vous n'êtes pas en train de penser à votre repas, là. Regardez bien. Dieu nous les a révélés. Toutes les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, ça nous dit au verset 10, mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Remarquez là le verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Amen, parce que nous sommes régénérés. Amen. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, les choses qui sont cachées dans le monde naturel, Dieu, tout d'un coup, veut ouvrir vos yeux spirituels et vos oreilles spirituelles afin que vous receviez la révélation de la gloire de Dieu aujourd'hui. C'est vrai. Verset 10, ça dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Il nous les a révélés. Des choses, ça veut dire, vous êtes dans l'intimité avec Dieu et tout d'un coup, Dieu vous permet de voir dans l'au-delà. Dieu vous permet de voir la gloire du ciel. Vous allez voir, est-ce que c'est possible? Ben là, je suis pas mort encore. Mais si vous priez, vous êtes dans la présence de Dieu et vous êtes dans l'Esprit de Dieu, Dieu va se révéler à vous et votre religion va être transformée dans cette relation tellement vivante que les gens du monde vont vouloir ce que vous avez. Ils vont dire, mais coudonc, qu'est-ce que t'as, toi? C'est spécial. Des fois, on parle de Dieu aux gens, puis là, les gens disent, ben, moi, je veux rien savoir de l'Église, parce que pff, les gens sont comme ci, sont comme ça. Je te parle pas de l'Église, là. Je te parle d'un Dieu vivant, un Dieu qui a transformé ma vie, un Dieu qui m'a révélé des choses glorieuses, des choses qui m'a préparé à l'avance. Et là, vous commencez à parler aux gens, même dans le Nouvel Âge, et là, ils disent, ah, oh, ben, ça m'intéresse, par exemple. Ça m'intéresse. Et là, parle-moi-en donc un petit peu de, ben, Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré ceci. Et là, tout d'un coup, les gens sont touchés par la présence de Dieu. Et là, vous les conduisez vers Jésus, pas une religion. Et là, les gens, ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent l'épouse de Christ. Verset 13. Et là, il y en a qui disent, oh, mais faut pas parler de ces choses-là dans les églises parce qu'il y a des gens qui vont avoir des idées étranges. OK? Il y en a qui disent, faut pas en parler. Verset 13, ça dit, Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, remarquez, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a un langage spirituel, et peut-être vous dites, ben moi je comprends rien, c'est du jargon, mais ça va changer. Mais savez-vous pourquoi? Verset 14, l'homme animal ou l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Je vais vous inviter à méditer sur ça cette semaine. Méditez sur 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7 à 16 plutôt. 1 Corinthiens 2, verset 7 à 16. Méditez, demandez au Seigneur. Seigneur, ici, l'apôtre Paul, il dit que tu lui révélais des choses dans l'invisible, les choses de ta gloire. Et moi aussi, j'aimerais ça vivre ça. Seigneur, montre-moi ici ce que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il voulait dire au juste. Révèle-moi. Vous savez, ça prend du temps à s'approcher de Dieu. Ça prend du temps. Quand une femme se marie, là, ils prennent du temps, ils vont magasiner, ils s'achètent une robe, des chaussures. Je me souviens, ma femme, là, on a fait tous les magasins de Granby pour ses chaussures, pour notre mariage. On s'est rendu à Montréal. Puis j'ai dit, non, ça sera pas tous les magasins de Montréal. Mais vraiment, mais ils prennent le temps à se préparer pour leur époux. C'est vrai. Mais vous êtes l'épouse de Christ. Prenez le temps à vous préparer. Prenez le temps de préparer votre rencontre avec l'époux. Vous pouvez aller dans votre temps de prière. par la foi dans les choses, dans les parvis célestes et recevoir de Dieu. Puis là, vous dites, ben moi, je comprends pas ça comme ça. Ben c'est correct, parce que Deutéronome 29:29, ça dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Si vous dites, ben ça marchera pas dans ma vie, mais c'est vrai, ça marchera pas parce que vous le dites. Mais si vous dites, moi là, je suis ouvert à ce que Dieu se révèle à moi, par son Saint-Esprit, ben là, Dieu vous donne cette révélation-là pour votre vie. Et là, en terminant, je sais que ça a été plus difficile ce matin, dans le sens que j'ai eu beaucoup, beaucoup de versets. Beaucoup de choses peut-être à vous faire comprendre. Mais si on dit on veut plus de la gloire de Dieu, c'est important pour nous de voir des dimensions de la gloire de l'Église, ou dans la parole, dans le Nouveau Testament. C'est important de voir ce que l'Église vivait à l'époque, pour voir, ben, est-ce que je peux m'attendre à vivre des choses semblables? Moi, je peux vous dire, oui, vous pouvez vivre des choses semblables, mais encore plus. Encore plus. Alors, si vous donnez encore quelques minutes, vous êtes encore là, personne meurt de faim, j'ai pratiquement fini. Mais je vais vous montrer ici certaines choses qu'on voyait dans la vie de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. Ici, c'est l'exemple de la vie normale de l'Église. Là, vous dites, ben, je sais c'est quoi l'Église normale. Qu'est-ce qu'on voit ici, au Québec, en Amérique du Nord? Ce n'est pas l'Église normale de la Bible. C'est une nouvelle fabrication. C'est vrai, c'est une autre fabrication. Ce n'est pas du tout l'Église primitive. Voici ce que l'Église primitive vivait. L'apôtre Paul, il dit, « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. » Imaginez, l'apôtre Paul a été ravi jusqu'au troisième ciel. Est-ce que ce serait possible pour vous, enfants de Dieu? Non, je vous pose la question, est-ce que ce serait possible que vous êtes dans la présence de Dieu, vous priez, et là, tout d'un coup, que le Seigneur vous révèle des choses et que vous soyez ravis jusqu'au troisième ciel. Est-ce que ça serait possible pour vous? C'est bon, mais parce que c'est la Bible. C'est juste ça, là. C'est la Bible. Savez-vous que le monde, dans le Nouvel Âge, tout ce que Dieu a de parfait, de pur, le Nouvel Âge, la sorcellerie, ils vont imiter parce qu'il y a une chose vraie. Faut pas avoir peur du surnaturel. Faut pas avoir peur, parce que Dieu nous a créés avec un esprit. Nous sommes un esprit, on habite un corps. Et, vous savez, on a été tellement habitués à vivre juste en terre à terre, vivre comme ça, juste des choses palpables dans le naturel, mais le spirituel est plus réel que le naturel. Nous sommes vraiment des esprits, et ça se donne qu'on habite un corps pendant un temps, peut-être 120 ans. Mais après ça, mon esprit va continuer à vivre dans les parvis de Dieu. Il y a toute une dimension de la gloire de Dieu disponible pour moi. Mais on doit réapprendre à vivre notre vie chrétienne. Il était ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et remarquez aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23-24, vous savez, l'apôtre Paul, là, il n'était pas là lors du dernier repas de la Sainte-Cène. Il n'était pas là, mais pourtant, dans les références que je viens de vous donner, 1 Corinthiens 11, 23-24, il parle, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, comment vous devriez faire ça. Il nous explique comment faire la Sainte-Cène parce qu'il l'avait reçu du Seigneur. Spécial, il y avait tellement cette communion avec Dieu et une révélation en lui que ça lui donnait. Il y en a un autre qui a vécu des choses assez spéciales dans la parole, l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, ça dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Il a été ravi en esprit. L'apôtre Jean, est-ce que ça serait possible pour vous peut-être d'être ravi en esprit? L'Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 3. J'ai quasiment terminé. Vous êtes très bons et patients. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. L'apôtre Jean, il dit, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Wow! Il était dans un temps avec Dieu, ravi en esprit, et puis le Seigneur lui a donné des révélations, des choses à venir. Jésus, j'ai pas besoin de vous lire plusieurs versets, je vais juste vous donner les références. Matthieu 2, verset 13. Ici, on voit un ange Seigneur apparu en songe à Joseph. Est-ce que ça se peut peut-être qu'un ange pourrait vous apparaître? Ah, faites attention à ça. Ça, c'est le nouvel âge qui rentre dans nos églises. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'on est simplement biblique. Le nouvel âge est mythe, la sorcellerie est mythe, toutes ces choses-là. Mais pour vivre la réforme que le Seigneur veut faire parmi nous, on doit vivre une réforme dans notre cœur, une réforme spirituelle. La semaine passée, on a parlé de la réforme au niveau de notre discernement, et c'est plus au niveau de la doctrine. Mais cette semaine, je suis en train de vous dire, il faut vivre une réforme dans notre esprit, une réforme dans notre attente, une réforme dans notre concept de l'Église aujourd'hui. Une réforme totale. Il faut recommencer à zéro peut-être, pour certains d'entre vous, et dire, le Seigneur vit, Dieu est vivant, il est vivant pour de vrai, Jésus est vivant, il va revenir nous chercher, il va venir chercher cette épouse, et cette épouse-là va être glorieuse, et cette église va être remplie de la puissance de Dieu. Comment pouvons-nous arriver à cette puissance en marchant comme nous marchons aujourd'hui, disant que toutes les expériences de la Bible ne sont pas pour nous, et faites attention parce qu'on a peur de ces affaires-là. Impossible. On ne peut pas y arriver. Mais si on dit, Seigneur, t'agis dans le passé comme ça, et je m'attends de vivre comme l'Église primitive, comme eux, ils recevaient de toi. Maintenant, Seigneur, je suis prêt à vivre plus encore. Amen. J'ai invité l'équipe de la louange ce matin. Je sais qu'on est en train de vivre des réajustements peut-être dans notre façon de voir les choses et dans nos attentes. Amen. On est en train de vivre des changements. Je termine avec ce verset-là, Jean 14, verset 12. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et le Saint-Esprit est sur nous aujourd'hui. » Oh, peut-être ce matin, qu'est-ce que ma prière vraiment pour vous, c'est que vous puissiez vous attendre à vivre plus. Que vous puissiez aussi vous préparer dans vos cœurs. Vous préparer et savoir, moi je fais partie de l'épouse. J'ai pas une religion à propos de Dieu, mais j'ai cette relation vivante avec lui. Puis je vais vous encourager cette semaine, prenez le temps avec Dieu, prenez le temps. Passez du temps de qualité avec lui. Priez, demandez-lui, Seigneur, révèle-toi à moi. Savez-vous, des fois, là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant que vous priez, il va vous montrer des personnes. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Et il va vous dire, prie pour telle personne. Et là, vous commencez à prier. Et vous ressentez la présence de Dieu venir sur vous. Parce que vous savez que vous êtes en train de prier pour telle personne. Moi, je vais vous choquer, peut-être, je vais peut-être vous scandaliser. Moi, j'étais en prière cette semaine. Et le Seigneur m'a donné une vision d'une mère avec un bébé et son enfant. Et puis elle avait peur, elle était dans un moment de guerre. Et tout d'un coup, j'étais en train de prier, tout d'un coup, ça me donne cette vision-là. Je commence à prier, une prière d'intercession, de protection pour cette personne-là. Je sais, rendu au ciel, peut-être cette femme-là va me dire, « Hey, Dieu m'a dit, c'était toi qui as prié pour moi et j'ai été protégé. Dieu a mis un ange là pour me protéger. » Pourquoi pas? Ben, nous, on prie avec notre liste d'épicerie pour que ça soit écrit là. Non, on est spirituel. Ça se peut que Dieu va se révéler à vous. On a besoin de vivre une réforme. S'attendre d'être connecté à l'Esprit de Dieu. S'attendre que Dieu nous parle. Dieu vous parle, enfant de Dieu. Savez-vous, Dieu vous parle, il vous parle constamment. Ouvrez vos oreilles. Hey, cette semaine, je vais vous donner un petit témoignage. Je m'en allais me coucher. J'étais couché dans mon lit. L'Esprit de Dieu me dit, va-t'en dans la salle de jeu. Et puis je suis allé dans la salle de jeu. Il y avait un toutou de mes enfants, mis dans le calorifère, tout était très, très chaud. Je l'ai enlevé. Je dis, oh, merci Seigneur. Parce que Dieu veut pas que ma maison passe au feu. Mais j'aurais pu aller me coucher, ma maison aurait passé au feu, peut-être on serait tous morts dans l'horreur de cette chose-là. Mais Dieu me parle, et Dieu vous parle. C'est pas obligé d'être une révélation suprême, juste, va-t'en dans la salle de jeu. Voilà, j'étais couché, ça venait de Dieu. Dieu vous parle, vous êtes un esprit, Dieu est esprit, et puis Dieu veut vous parler, Dieu veut se révéler davantage, mais il faut avoir cette soif, il faut avoir ce désir de recevoir plus de l'époux. Je vous invite à vous lever ce matin, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, je viens devant toi. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, je veux te remercier parce que tu nous as pardonné de nos péchés. Et Seigneur, s'il y a des péchés qui restent en nous, Seigneur, on sait que dans ta parole, ça dit qu'on doit rechercher la sanctification. Alors aujourd'hui, on recherche de se sanctifier. On recherche, Seigneur, à ce que ton sang nous purifie. Seigneur, on se repent de tout péché, toute iniquité, toutes les choses, Seigneur, qui sont contraires à toi. On te demande, Seigneur, de nous laver, de nous purifier aujourd'hui. Et Seigneur, on prie également qu'on soit toujours prêt. Qu'on soit toujours prêt, Seigneur. Ce glorieux jour qui s'en vient, lorsque tu vas aller chercher ton épouse. Pas cette épouse qu'on a vue dans les rêves, cette épouse adultère, cette épouse dans le monde, cette épouse faible, mal mariée. Non, mais Seigneur, cette épouse glorieuse. Oh Seigneur, fais de nous vraiment des instruments de ta gloire. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'on soit des instruments de ta gloire. Seigneur, on veut te laisser toute la place dans nos cœurs. Oh Seigneur, toutes les choses qui ne sont pas de toi, toute la religion, Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, ça prend du temps, on le sait, Seigneur, mais fais le ménage. Enlève les vieilles racines, enlève la religion, toutes les choses, Seigneur, qui nous retiennent. Oh Seigneur, fais le ménage pour qu'on puisse recevoir ta méga puissance en nous, Seigneur Dieu, pour que ton onction puisse couler en nous, Seigneur, et que tu puisses te glorifier. Seigneur, dans cette dernière réforme de ton Église, avant le retour de ton Fils, Seigneur, nous prions aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses nous changer, nous transformer. Seigneur, ce jour de réforme qui est sur nous dans la francophonie. Oh Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs à la radio, sur l'Internet. Seigneur, je prie également pour eux, pour ceux qui se joignent dans la foi aujourd'hui. Je prie, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit puisse faire le travail dans leur vie. Seigneur Dieu, je prie pour les gens dans d'autres nations, Seigneur. On appelle le vent de ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, viens nous donner cette vision, Seigneur. Donne-nous cette vision, Seigneur, de ta gloire, Seigneur. Qu'on n'ait pas peur de ta gloire. Qu'on n'ait pas peur de ton Saint-Esprit. Qu'on n'ait pas peur de ta présence. Mais qu'on t'accueille, Seigneur. Qu'on dise, oui, Seigneur, je veux plus de toi. Oui, Seigneur, change-moi, Seigneur. Donne-moi tes goûts. Donne-moi tes yeux, tes oreilles pour recevoir de toi. Merci, Seigneur, de parler à mes frères et à mes sœurs cette semaine. Oh, Seigneur, je prie que ce ne soit pas juste un message entendu, mais qu'il y ait une réalité, une révélation personnelle dans leur vie. Que tu es un Dieu vivant, que tu n'es pas un Dieu de plâtre, mais tu es un Dieu vivant. Tu vis, Seigneur Dieu. Révèle-toi à mes frères et mes sœurs comme étant ce Dieu vivant. Et Seigneur, je prie que tu fasses de mes frères et de mes sœurs des instruments pour aller gagner des religieux. Des personnes qui sont juste dans leur tête, mais qui ont besoin de te recevoir dans leur cœur. Qui ont besoin d'être pardonnés. Qui ont besoin d'être sauvés véritablement. Qui ont besoin d'être convertis afin que des temps de rafraîchissement viennent. Seigneur, on veut ces temps de rafraîchissement. On dit oui, Seigneur. On veut ces temps de rafraîchissement ici, Seigneur. Dans cette ville, Seigneur. Dans cette province, Seigneur. Dans cette nation, Seigneur. On veut des temps de rafraîchissement, Seigneur. On se repent et on se convertit, Seigneur. Dans notre façon de penser, Seigneur. Dans nos attentes, Seigneur Dieu. On te dit, sois le bienvenu par ton esprit. On dit oui, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse parmi nous. Que ta volonté, Seigneur Dieu, s'accomplisse parmi nous. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, Seigneur Dieu, on te loue. On peut le louer, louer-le à l'avance pour les révélations qu'il va vous donner. Merci Seigneur Jésus, parce qu'on s'en va à un autre niveau avec toi. Un autre niveau dans la foi, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, merci. Seigneur Dieu, si tu veux que certains frères ou des sœurs ici dans cette place montent et qu'ils reçoivent, Seigneur, des mandats. Merci Seigneur de te révéler. On reçoit aujourd'hui. On reçoit, Seigneur Dieu. On n'a pas des limites sur toi, Jésus. Pas de limites sur toi, Jésus. Pas de limites, Seigneur. On ouvre notre cœur, Seigneur Jésus. Alléluia.
Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous ouvres les yeux. Merci parce que tu nous reçois. Seigneur, ta parole dit que si on pense voir, alors qu'on est aveugle, on se trompe soi-même. Et Seigneur, on ne veut pas croire qu'on est arrivé là où tu veux nous amener. On ne veut pas croire, Seigneur, que c'est ça l'Église. Père, je prie pour l'Église. Seigneur, renouvelle et transforme notre vision de l'Église. Change notre vision de qui tu es, de comment tu veux agir. Seigneur, tu nous montres dans ta parole que se confier dans la chair n'amène à rien. Que de croire que les choses qu'on fait avec notre chair amèneront quelque chose, c'est vanité. Seigneur, j'appelle ta puissance surnaturelle. J'appelle ta gloire. J'appelle ta gloire. J'appelle ta gloire. J'appelle ta gloire, Seigneur, viens, 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 viens. Viens régner. Viens toucher les vies. Viens toucher les vies. Viens ouvrir les yeux des aveugles. Viens ouvrir les yeux des aveugles. Viens ouvrir les yeux parmi nous. Seigneur, touche des gens. Touche des gens. Touche les gens. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Seigneur, il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui pensent voir. Et qui sont handicapés spirituels. Qui ne peuvent pas marcher. Qui suivent des bergers. Qui sont des faux bergers. Seigneur, ouvre les yeux des gens qui suivent ce message. Ouvre les yeux de ton peuple. Précieux Saint-Esprit, j'appelle le vent de ta gloire, la manifestation et le règne, la liberté glorieuse des enfants de Dieu, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les malades, les mains aux malades, et les malades seront guéris. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils parleront des nouvelles langues. Seigneur, c'est l'héritage des enfants de Dieu. C'est l'héritage de ta gloire. C'est l'héritage de ta gloire. C'est l'héritage de ta gloire. C'est pour nous, aujourd'hui. La réforme est là. La réforme est là. La réforme est là. La réforme est pour tous ceux qui disent, Seigneur, nous ne voyons pas encore. Nous voulons voir plus. Nous voulons voir plus. Nous voulons voir plus. Ouvre nos yeux. 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 Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Sa gloire est là pour toi. Sa gloire est là pour toi. C'est un jour de réveil. C'est un jour de réforme. C'est un jour de gloire. C'est un jour où Dieu renouvelle ta pensée. Où Dieu touche ta vie. C'est un jour de repentance. Un jour de restauration. Un jour comme le jour de la gloire, comme le jour où Dieu vient visiter son peuple, comme le jour où Dieu vient visiter sa maison, car c'est toi sa maison, car tu es la maison de Dieu, tu es la maison de Dieu, et sur toi, le Seigneur se révèle, sur toi, sa lumière paraît, sur toi, sa lumière se révèle. Alléluia!
Merci Seigneur ce matin pour notre retour à la maison, notre retour à la maison spirituelle. Seigneur, merci parce que tu es le véritable. Ta parole est la vérité. Et Seigneur, ta parole est prononcée ce matin sur notre vie, de sorte, Seigneur, que nous avons le privilège de marcher avec toi en nouveauté de vie. Seigneur, merci pour les nouvelles expériences véritables, durables et efficaces. Seigneur, je te remercie ce matin que l'onction de Dieu, Seigneur, qui est sur notre vie, va agrandir, qui va se développer. Ça va changer, Seigneur, de mieux en mieux, de gloire en gloire et manifester, Seigneur, dans notre vie d'une façon nouvelle. Alléluia! Oh, merci Seigneur pour la nouveauté. Merci pour la réalité. Merci pour l'efficacité. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh, qu'on puisse marcher, Seigneur, avec toi de plus en plus cette semaine, dans ta parole et dans ta présence. Et les miracles, les signes, les prodiges se produisent dans notre vie, Seigneur, comme au temps des apôtres. Seigneur, que la veille de ta gloire, Jésus, alléluia, puis nous conduire ici et là, Seigneur, et que ta présence soit au milieu de nous, Seigneur. Oh, je te remercie, Seigneur, pour ta magnifique parole, la parole de vie, Seigneur, que tu as prononcée sur nous ce matin. Oh, Seigneur, merci pour la vision, Seigneur. Merci pour la vision, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton nom soit loué et élevé au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute montagne, au-dessus de toute maladie. Seigneur, que ton nom soit exalté au milieu de ton église. Oh, que ça soit exalté au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, sois glorifié, sois exalté, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, alléluia, béni soit le nom de Jésus, alléluia.
Qui vont regarder cette vidéo. Et le Seigneur vous dit, vous dites vous avez une vision, mais vous n'avez plus de vision. Vous dites j'ai la parole de Dieu, mais vous avez oublié l'esprit qui enseigne la parole de Dieu. Et toi qui es pasteur, Dieu te dit, tu dois confesser que tu es aveugle pour voir. Où sont les pasteurs qui ont des visions? Où sont mes bergers qui ont une vision claire, qui ont des songes évidents? Dieu veut lever une armée de croyants, d'enfants de Dieu qui vont dire, nous n'arrêterons pas de croire que Dieu fait des miracles. Nous allons voir le Dieu de la deuxième maison. La Bible dit dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais la Bible dit aussi que dans les derniers temps, vos fils et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Où est l'Église qui a des visions? Où est l'Église aujourd'hui qui voit des miracles? Nous sommes l'Église de Dieu. Et nous voulons et nous devons voir ce que Dieu a promis. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit aujourd'hui. Dieu cherche et va lever une armée de gens, une armée d'évangélistes. Des gens qui vont voir la gloire de Dieu dans cette génération. Des gens qui vont voir le réveil de la dernière saison. Alléluia! Il y a des jeunes qui regardent cette vidéo. Et Dieu veut vous lever dans votre église. Dieu veut vous lever dans votre église. Il y a des groupes de jeunes dans des églises. Dieu veut vous lever. Dieu veut vous lever. Dieu dit, consacrez-vous à moi. Cherchez ma face et je répondrai.
Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu parce que tu es vivant. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous enseignes tes voies, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on devient mature en toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous révèles qu'on n'est pas né, Seigneur Dieu, juste pour exister, mais on est ici, aujourd'hui, pour avoir cette relation avec toi. On est spirituel, c'est notre nature, c'est ça. On est fait pour connecter avec toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour ce miracle que tu fais en nous, où on connecte avec toi, là où tu nous changes, Seigneur Dieu. Oh, merci, Seigneur Dieu, parce que tu es en train de préparer ton épouse. Tu es en train de préparer ton épouse. Merci de nous revêtir de ta gloire. Nous revêtir de ta gloire. Merci, Seigneur, parce qu'on enlève les vieux manteaux de la religion, les vieux manteaux lourds et pesants. Merci, Seigneur Dieu, parce que ton joug est doux et léger. Merci, Seigneur, pour les vêtements blancs que tu nous donnes. Alléluia, merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci parce que mes frères et mes sœurs qui veulent, qui ont soif pour plus de toi, Seigneur. Merci parce que tu leur en donnes plus cette semaine. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour le plus, le plus, le plus, Seigneur Dieu, qu'on reçoit. Alléluia. Oh, Seigneur, je les bénis en ton nom aujourd'hui. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Si vous voulez rester le louer, c'est des bienvenus.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.